Bonjour, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on a le pied voyageur. Comme d'habitude, on passe par le Grand Nord pour aller rejoindre les Maritimes, l'Ontario et le Mali. Les producteurs acéricoles du Nouveau-Brunswick ont tenté d'étirer la saison des sucres. Dame Nature avait d'autres projets.
Mais tu sais, quand le gars il a 120 000 en taule, c'est plus dur à gager. Là. C'est montagne chaude, c'est montagne frette. Fait que à un moment donné, ça se contamine plus vite que moi.
Le Collège nordique des territoires du Nord-Ouest propose un nouveau cours autour d'un concept qui lui va bien, celui de la nordicité, une université. L'Université ontarienne s'y associe.
On a alors sollicité notamment la linguistique, la géographie, les arts, les terrasses, cinématographiques, etc.
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, le seul journal francophone de la province, part à la rencontre de ses possibles publics, prétexte ou pas, pour discuter, entre autres, d'insécurité linguistique.
C'est-à-dire que quiconque qui va lire le Courrier de la Nouvelle-Écosse puisse se sentir reconnu dans sa langue, mais aussi se sentir confortable à lire ce qu'il est en train de lire. Et ça, c'est un des gros enjeux de justement l'insécurité linguistique, le fait de ne pas d'avoir un rapport peut-être à la langue qui est un peu, je dirais, contrarié.
Et la route du coton, un projet lancé par l'ambassadrice de la République du Mali au Canada, espère redynamiser la filière coton via la mode et l'artisanat.
Nous avons ce rapport avec le coton qui fait partie de notre histoire d'abord par l'esclavage, par la colonisation.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter. @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être là. On lance l'émission dans l'est du pays où les températures changeantes auront eu raison des acériculteurs du Nouveau-Brunswick qui devront se contenter cette année d'une récolte de 50 % inférieure à celle de l'an dernier. Dans le Restigouche-Ouest, plusieurs espéraient avoir, malgré tout, le temps de pouvoir remplir quelques barils de plus jusqu'à la fin du mois d'avril. Certains producteurs ont réussi à étirer la sauce, d'autres ont toutefois décidé de tout simplement fermer leurs pompes. La saison a pour certains été amputée de plusieurs semaines. En acériculture, les conditions météorologiques font foi de tout, ce qui ne fait pas toujours l'affaire des producteurs, surtout en période inflationniste. Pourtant, ne pas savoir à quoi s'attendre est bien le prix qu'il faut être prêt à payer quand on œuvre dans ce domaine, au moment où les dépenses liées à l'exploitation d'une érablière grimpent en flèche. Notre journaliste Maxime Gauthier est allé affronter les vents et marées et est allé à la rencontre de plusieurs producteurs et acteurs de cette filière dans le reportage qui suit.
La saison des sucres tire à sa fin au Restigouche-Ouest. Pour ce propriétaire d'une érablière de 40 000 en taille, M. Jonathan Martel, c'est une saison à oublier.
Décevant. C'est décevant. C'était bien parti. On s'enlignait vers de quoi vraiment bon, vraiment tôt. Puis tout d'un coup, c'est ça. Ça a comme arrêté. Des conditions pas bonnes. Trop de froid. Puis après ça, quand le froid est parti, ben, la chaleur a commencé. Puis le goût du sirop a changé. Puis on est rendu là.
Propriétaire de 105 000 en taille, M. Glenn Sommers affirme avoir récolté la moitié de sa production de l'année dernière. M. Sommers qui nous fait part des raisons derrière cette saison décevante.
On a récolté environ 52 % par rapport à l'année passée, la production. Il n'y a pas eu de pluie en début de saison. Quand ça a commencé à couler, là, ça a commencé assez de bonne heure. On en reçoit environ 10 % du haut des érables, qui est à l'extérieur de la neige, puis ce que c'est qui est en dessous de la neige, les racines, etc., on a 80-90% de l'eau qui vient de là. Puis c'était gelé à la base de la neige, puis vu que les arbres ne voulaient pas rigner, ça a décollé trop tard, puis quand ça a décollé, la chaleur a pris tout de suite. Ça fait que c'est ça qui a fait une mauvaise saison.
Produisant du sirop d'érable avec 2200 en taille, on écoute les propos d'un acériculteur qui énumère malgré tout des éléments positifs de cette saison. On écoute M. Danick Lapointe.
J'ai tombé dans la sève le 22 avant hier. Petite sève légère, petite odeur qui est apparue dans la cabane. Puis hier, il y avait ma famille du Québec, puis des chums partout, des chums du Nouveau-Brunswick. On leur a fait de la tire, puis moi, je percevais le goût de la sève un peu, mais eux autres et tout, mais tu sais, il fallait que je la refasse une deuxième batch tellement que tout le monde aimait la tire. Vois-tu, à matin, là, ça a commencé à brouter dans les pannes un peu, fait que la sève est encore un peu plus présente. C'est normal, là, les gelées de la nuit, ils s'en viennent rares. Je prévois encore au moins toffer d'ici jusqu'à vendredi, voire samedi. S'il y a annonce deux nuits de gelée, fait que déjà là, avec les nuits de gelée, ça l'autre pas mal de défauts de savoir dans le sirop. J'ai des voisins ici, 20 km plus haut, ils ont fermé, ils sont plus proches de Saint-Quentin, mais ils sont dans Restigouche à Kedgewick. Ils ont des grosses éradières, tu sais, c'est différent d'une petite qui est versant sud-ouest puis un gros versant nord, tu sais. J'ai encore 2 pieds et demi de neige dans le bois comme qu'on voit, là. Et moi ici, la sucrerie est pas mal frette. Mais tu sais, quand le gars il a 120 000 en taille, c'est plus dur à gager, là. C'est montagne chaude, c'est montagne frette. Fait que tu sais, à un moment donné, ça se contamine plus vite que moi. Moi ici, à date, j'ai rien à dire. Ça pose bien dans la presse. Je suis capable de faire 2 barils avec ma presse sans problème. Et comparativement à tout le monde, oui, c'est pire. C'est pire, vois-tu, là, l'année passée, je serais déjà rendu à mon 15-15e 45 gallons. Mais là, cette année, vois-tu, on va caper le 7e ensemble tantôt. Fait que, pas le 7e, excuse, le 8e. J'arrive à ma moitié de production de fête, même un petit peu plus, parce qu'on a fait des bouteilles en détail avec la première bonne qualité de sirop. Je fais des bouteilles en détail. Fait que, vois-tu, j'ai plus que la moitié de ma saison de production de fête.
C'est le jour et la nuit au niveau de la qualité et de la quantité de la production de sirop d'érable pour l'érablière Jonathan Martel et Glenn Summers, si on compare avec celle de l'année dernière.
Ouais, l'année passée, c'était vraiment une année exceptionnelle. Puis cette année, c'est peut-être la moitié de ça. Ouais.
C'est la moitié de ça, mais tous tes coûts, tes dépenses sont super.
Ouais, c'est ça, non. Non, c'est tout encore augmenté. Je pensais pas qu'on allait se rendre là, mais... L'année passée, on avait un 30% d'augmentation sur les coûts de tout. Puis cette année, je te dirais encore une grosse augmentation, là.
C'est sûr que tout augmente plus vite que ce que notre paye à nous autres augmente, là. Pas dur à comprendre comment que les érablières ont fait pour s'en sortir les dernières années. On a passé ici, alentour, on faisait une production d'environ 2 livres et demi à l'entour et de moyenne. Puis on est rendu à 4 livres et demi de moyenne. Ça fait que c'est pour ça que les érablières ont bien survécu pour une couple d'années. Mais l'inflation nous a rattrapés. Là, c'est rendu que c'était 4 livres-là... c'est presque plus suffisant parce que tout monte, les salaires, les assurances, le pétrole, le plastique, le fer, les équipements.
On a discuté avec le conseiller technique chez les équipements d'érablières CDL à Saint-Quentin concernant cette inflation qui rattrape considérablement les producteurs acéricoles. On écoute les propos de M. Michael Boucher.
Depuis moi un bout là, que je vois, là, depuis même l'hiver, là, je vois quand même une stabilité qui se crée. Là. Parce que, tu sais, il vient un temps à un moment donné que même là, tu sais, on voit que ça va quand même un peu mieux pareil dans la chaîne d'approvisionnement et tout ça. Fait qu'on voit que je dis pas qu'il n'y a pas de coûts supplémentaires. C'est sûr qu'il y a des coûts supplémentaires, sauf que c'est quand même pas si pire que ça, là, à l'heure qu'on se parle. Là. Ça a été pire quand on a été dans l'année suivante du COVID. Ça a été épouvantable. Là, je veux dire, là, ça monte en flèche. Sinon, on tombe vraiment comme dans une inflation qui est plus modérée. Mais oui, c'est sûr qu'il y a toujours une inflation. Tout augmente, nos coûts de transport augmentent, tout augmente en majorité du temps, c'est phénoménal. Là. On a toujours besoin dans la sériculture de des produits saisonniers, des produits qu'on a besoin pour notre roulant. Ce qui veut dire pour les réparations de tubes, on a besoin pour notre produit saisonnier justement pour faire notre saison et tout ça. Fait que, veux pas, il y a toujours une partie des produits qu'on aura besoin d'une manière ou d'une autre petite, grosse saison. On a toujours besoin de certains produits, mais souvent, c'est quand que les gens arrivent à réinvestir, être capables de changer changer de la tublure en forêt, changer des équipements pour en mettre des plus modernes ou tout de même. Ben là, à partir de là, c'est là, je te dirais que ça fait quand même une différence.
Pour contrer l'inflation, M. Boucher croit que le prix du sirop d'érable devrait s'ajuster en conséquence dans les années à venir.
C'est sûr que je le vois là, que on a des augmentations tout le temps continu, puis on le voit que c'est de plus en plus difficile. C'est de là que je crois que qu'est-ce qu'il va falloir qu'il soit ajusté, ça va être le prix du sirop dans le futur, il va falloir qu'il s'ajuste. Là. C'est vraiment ça, c'est une chose que. Puis ça fait des années, je veux dire, qu'ils en parlent. Puis en plus, comme c'est là, qu'est-ce qu'on vit avec les acheteurs de sirop? Tous les acheteurs ne veulent pas nous donner la prime au Nouveau-Brunswick que tous les producteurs au Québec vont avoir cette année. Fait que, tu sais, je vous dirais, là, on va voir avec qu'est-ce qui va se passer avec la faible production qui s'est faite au Québec, mais restera que cette prime-là aiderait quand même à combler à toutes nos dépenses de plus, là.
Merci à Maxime Gauthier de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, qui a fait pas mal de routes pour nous ramener ce reportage.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Le courrier de la Nouvelle-Écosse part à la rencontre de son lectorat et entreprend une tournée des communautés acadiennes. Lancé en 1937, le journal dit vouloir entamer une conversation autour du rôle du journal dans la représentation de la langue. Face au déclin de la langue française dans la province, Nicolas Jean, directeur général du courrier de la Nouvelle-Écosse, estime que son journal aura un rôle important à jouer. Nous avons, dit-il, des attentes fortes de la communauté acadienne pour diffuser un français de qualité compréhensible par tous. Le journal espère mieux représenter la diversité linguistique de ses possibles publics, dit-il. Fin de citation. Rappelons que le courrier de la Nouvelle-Écosse est distribué dans toute la province tous les 15 jours. Notre journaliste Daniel Aucoin en parle avec Nicolas Jean, directeur du journal.
Alors Nicolas, explique-nous d'abord pourquoi on a décidé au journal Le Courrier de la Nouvelle-Écosse de rendre visite à 12 communautés acadiennes et francophones de notre province.
Eh bien, ce projet, je dirais, est né de l'équipe, est né de plusieurs constats également. Cette tournée, bien évidemment, c'est pour faire connaître Le Courrier, mais c'est aussi autour d'une thématique qui est une thématique difficile, mais qui touche beaucoup de membres de nos communautés, qui est celle de l'insécurité linguistique. C'est une façon pour nous de demander aux membres de nos communautés, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire comme seul journal francophone de la province pour rendre le média plus inclusif et aussi rendre le média un espace de sécurité linguistique. C'est-à-dire que quiconque qui va lire le Courrier de la Nouvelle-Écosse, que ce soit en ligne, que ce soit sur le journal papier, puisse se sentir reconnu dans sa langue, mais aussi se sentir confortable à lire ce qu'il est en train de lire. Et ça, c'est un des gros enjeux de justement la sécurité linguistique, le fait de ne pas d'avoir un rapport peut-être à la langue qui est un peu, je dirais, contrarié, parfois même des blessures ou des difficultés qui ont été vécues dans le passé, que ce soit dans le milieu scolaire, familial ou encore le milieu professionnel. C'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a des solutions, des actions concrètes que l'on peut faire, que l'on peut mettre en œuvre pour créer cet espace de sécurité linguistique. Et ce que je peux vous dire, Daniel, à ce jour, on a rencontré deux communautés. À date, la communauté de Claire et la communauté d'Argyle-Hier. Et il y a clairement des pistes de solutions qui émanent directement des personnes de la communauté. Je vous donne un exemple très simple, mais quelque chose qui crée de la sécurité linguistique, c'est par exemple le fait de se sentir plus à l'aise dans ses compétences linguistiques. Donc tout l'aspect éducatif à travers des jeux, apprendre une langue, apprendre des formes grammaticales, ça a été pointé comme une solution possible pour rendre les gens confortables avec la langue et puis avec sa pratique d'une certaine façon.
Peut-être nous rappeler l'importance du journal, le seul journal francophone en Nouvelle-Écosse.
C'est important parce que déjà on est les seuls. S'il n'y a plus de médias écrits qui peut se rendre dans les foyers, que ce soit par la boîte aux lettres ou par la boîte email, la boîte courriel, il n'y a plus nécessairement d'exposition à la langue française écrite. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très important. Beaucoup de lecteurs nous ont dit, depuis que je suis petit, c'était le seul support écrit en français qui rentrait dans la maison. Donc on veut conserver ça, bien évidemment. Il y a le rôle patrimonial aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans un journal, c'est quelque chose qui reste et ensuite classé aux archives officielles. Donc si tout ça s'en va, si tout ça se perd, on arrête de documenter la vie des communautés. Puis des aspects, il y en a plein d'autres, mais un autre que je pourrais retenir ici, c'est que bien évidemment, le journalisme, parler des choses qui intéressent la communauté, parler aussi des défis, des choses qui vont pas, c'est aussi un levier pour les communautés, pour se renforcer, apprendre à se connaître, à évoluer et puis à d'une certaine façon à regarder quels sont les défis en 2023 pour nous et comment est-ce qu'on peut s'aider. Et bien évidemment, le journalisme a un rôle très important à jouer sur cette question. On était à Claire Guide cette semaine, dans deux semaines on va être à la Vallée et ensuite sur la rive sud du côté de Bridgewater et on va continuer comme ça jusqu'au tout début du mois de juillet. On terminera avec Halifax et chez Zetcook.
Alors, bonne chance avec la tournée des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Nicolas Jean, directeur général du Courrier de la Nouvelle-Écosse, merci beaucoup et bonne chance.
Merci beaucoup, Daniel.
Le Collège nordique francophone des territoires du Nord-Ouest donnera cet été un cours sur la nordicité. Il s'agit d'une première. Le cours sera offert du 12 au 29 juin prochain. L'Université de Hearst en Ontario et le Collège nordique ont décidé de mettre leurs expertises en commun pour l'offrir. Et si tout se passe bien, ce nouveau cours universitaire de 3 crédits pourrait aussi faire partie du cursus scolaire d'automne et d'hiver des deux institutions scolaires. Notre journaliste Raphaël Hamel est à Yellowknife. Il s'entretient avec Jonathan Pitre, gestionnaire de projet au Collège nordique.
Le CNF souhaite augmenter sa capacité en pédagogique, puis devenir éventuellement un collège accrédité. Donc, pour ce faire, il faut faire des partenariats avec d'autres établissements postsecondaires pour démontrer qu'on est capable de justement collaborer puis de développer des cours de quand même haut de gamme. Donc, on s'est dit, l'université de Hearst vit un peu les mêmes similarités que nous en étant au nord de l'Ontario et nous au nord dans les TNO. Mm-hmm. Donc, c'est là que l'entente est devenue plus officielle en novembre dernier. Donc, on a signé une entente pour offrir un cours d'été. Puis, on travaille déjà pour la suite des choses, pour un cours en automne et en hiver. Donc, à suivre pour la suite des choses.
Et qu'est-ce qui va être enseigné durant ce cours-là?
Donc le cours propose une initiation à l'étude de la nordicité de ces enjeux. C'est plus une perspective transdisciplinaire dans le sens que nous allons solliciter notamment la linguistique, la géographie, les arts, donc les terrasses, les cinémétrographiques, etc. Le développement durable, les choses comme ça. Puis, dans le cadre du cours, il y a aussi des conférenciers spécialisés ou des invités qui vont venir enseigner ou donner des conférences. Puis, on aura la chance ici même à Yellowknife d'avoir les conférenciers sur place, que l'information va sortir plus tard, bientôt en fait, pour les gens s'inscrivent. Mais il y aura des conférences de la semaine du 19 juin au 22 juin. Donc, restez à l'affût pour ça. Il y aura Gabriel qui va parler de la bande dessinée de la nordicité. Catherine qui va parler un peu plus de développement économique du Nunavik dans un contexte pluraliste. Puis, il y a aussi Mélissa qui va parler de plutôt la perspective historique entre les traités numéro 9 et le traité numéro 11.
Puis ça représente quoi ce cours pour Yellowknife? Pourquoi c'est important pour la communauté des territoires du Nord-Ouest?
Justement, pour essayer de définir c'est quoi la nordicité, puis de rajouter, si c'est une valeur ajoutée, puis je pense que c'est intéressant de peut-être les gens qui veulent venir participer, puis donner leur point de vue. C'est, je pense que c'est un ajout très important pour développer ensemble. Parce que la nordicité, ça reste un... c'est complexe comme... c'est quoi la nordicité? Mm-hmm. C'est ça qui va être discuté un peu dans le cours. Puis il y aura différents échanges que les étudiants auront l'occasion de se faire une idée de, pour eux, c'est quoi la nordicité. Mm-hmm. Donc, la manière que ça fonctionne, les deux premières semaines, les étudiants de Hearst vont être à distance. Les étudiants de...
Ici, il y a le
ici, Yellowknife sera dans nos locaux en présentiel où il y a le choix de venir en présentiel ou de suivre à distance également. Et la troisième semaine, pour vivre le nord de Yellowknife, pour être sur place puis d'approfondir leurs connaissances, les étudiants de l'extérieur vont faire le voyage pour se rendre ici même à Yellowknife pendant une semaine. Donc, ils seront ici du 23 au 30 juin.
Ah, ben on a bien hâte de les recevoir. Pour toute question concernant les inscriptions ou bien le déroulement du cours, vous pouvez communiquer avec Johnny Pitre ou J. Pitre à commercial collège-nordique.com.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Vous Voilà donc que des ponts se créent entre les territoires du Nord-Ouest et l'Ontario, et puis ici, entre l'Ontario, le Québec et le Mali, ceci grâce à un projet de valorisation de la filière coton et du projet La Nouvelle Route du Coton. L'ambassadrice de la République du Mali au Canada, Fatima Braoulé-Meïté, qui est en poste depuis 3 ans à Ottawa, œuvre à redynamiser les relations entre les deux pays. Elle, qui était récemment de passage au Fashion Art de Toronto, pour soutenir cette initiative de valorisation du coton produit au Mali. Elle avait fait de même en février à Montréal. Le projet La Nouvelle Route du Coton, lancé en 2020, rappelle bien sûr l'héritage colonial et esclavagiste que porte historiquement cette fibre, mais le nom du projet a été choisi de manière volontaire par l'ambassadrice Meïté elle-même, elle qui est à l'origine d'ailleurs de ce projet culturel et économique. Marine Otogali est en poste à Toronto. Elle a rencontré l'ambassadrice de la République du Mali, Fatima Braoulé-Meïté.
Alors, la nouvelle route du coton est à l'image de la route de la soie. C'est vrai que c'est un peu prétentieux, mais alors c'est une route économique, culturelle, entre le Mali, le Canada et tout simplement l'Amérique du Nord. Cette route du coton symbolise le patrimoine culturel malien dans le domaine des textiles, de la mode et de la décoration d'intérieur. Les produits sont fabriqués avec donc le coton de façon traditionnelle. Donc, ça s'appuie sur nos traditions, nos savoir-faire ancestraux, et aussi teint à partir de teintures naturelles à base de terre et d'écorce d'arbres. Cette route du coton se propose de créer de la valeur dans la transformation du coton. Comme vous l'avez dit, nous sommes premiers producteurs de coton avec 80 000 tonnes de coton produit, mais nous en transformons à peine 1% localement.
Okay.
Donc, c'est de la perte de valeur parce que ça ne permet pas d'employer, de créer de l'emploi sur la chaîne de valeur, de transformer. Donc, notre ambition est de pouvoir transformer une partie de ce coton localement, ajouter de la valeur à partir de nos savoir-faire, de notre savoir-être, de notre culture, de notre patrimoine et de nous projeter vers le monde.
C'est un projet ambitieux, mais en fait qui n'est pas du tout hors sol, qui repose entièrement sur votre expérience personnelle, puisque vous m'avez raconté qu'en fait, avant d'être ambassadrice, vous travailliez dans le textile et vous avez été vous-même créatrice. Est-ce que vous pouvez me parler de ce passé et comment ça vous a amené à créer cette initiative ?
Effectivement, quand j'ai terminé mes études, nous avions une entreprise familiale, le Santoro, qui ne travaillait que sur les textiles traditionnels. Et ça, c'était dans les années 92. Donc, j'ai été amenée à travailler avec les artisans et les artisanes dans les villages. Parce que comme j'avais étudié aux États-Unis, je faisais déjà mon regard américain, on peut dire, sur les textiles, d'abord les dimensions, parce que les textiles traditionnels qu'on produisait étaient de petite taille. Et donc, on est allé à les mettre dans de grandes dimensions, à les introduire dans la décoration d'intérieur. Donc, nous étions pratiquement les premiers à les faire. Donc, ça m'a amené à travailler dans les villages avec les femmes, les artisans. Lorsque j'ai été nommée ambassadrice, le textile a été au centre de ma diplomatie culturelle.
C'est beau de voir comment un parcours personnel peut complètement construire un parcours professionnel et puis voilà, rejaillir aussi aujourd'hui au Canada. Donc vous avez créé la nouvelle route du coton, vous avez commencé à contribuer localement, c'est-à-dire au Canada, à montrer un peu l'art et l'artisanat malien.
Absolument. L'objectif de la nouvelle route du coton, c'est de promouvoir les créations fin mai, donc comme j'ai dit, à partir de nos savoir-faire, savoir-être culturels, mais également de promouvoir les jeunes créateurs maliens dans le domaine de la mode, du textile et du design au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Donc cette route que nous nous souhaitons emprunter, comme je l'ai dit également, est créateur d'emplois et il faut que nos produits puissent sortir du Mali parce qu'ils sont beaux déjà et aussi nous sommes dans cette mouvance. Pour nous, c'est quelque chose d'inné parce que tout simplement, nous fabriquons nos vêtements. Nous le faisons nous-mêmes et nous le faisons sur mesure. Nous n'en surproduisons pas, nous n'en surconsommons pas, surtout quand c'est fait de façon traditionnelle. Donc, c'était une opportunité pour ces jeunes de venir montrer leur talent au Canada. Malheureusement, elles n'ont pas pu avoir leur visa. Et donc, parce que, bon, de gouvernement en gouvernement, c'est plus facile, mais quand il s'agit de particuliers, c'est un peu plus compliqué. De ce fait-là, donc, j'ai été obligée d'improviser une collection que j'ai intitulée « Se vêtir, être et paraître », donc, qui a pu défiler à Montréal le 18 février, parce que nous avons fait cette collection et ce défilé, c'était dans le cadre de la célébration du mois des personnes d'ascendance africaine. Parce que, comme vous savez aussi, nous avons ce rapport avec le coton qui fait partie de notre histoire, d'abord par l'esclavage, par la colonisation en Afrique, l'esclavage dans les Amériques. Donc, ce rapport au coton que nous avons, dans ces circonstances-là qui ont été malheureuses et tristes, mais aussi fait partie de notre histoire. Donc, nous avons la nouvelle route du coton s'inscrit également dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et se veut être une contribution à une meilleure compréhension des conditions socio-économiques des populations noires en Afrique et en Amérique du Nord.
Oui, c'était une question, effectivement. Est-ce que c'est une revendication d'appeler cette initiative « Nouvelle route du coton » parce qu'il y a un héritage assez lourd derrière. Donc, c'est une volonté d'en parler et d'assumer cet héritage et de changer, en fait, de changer l'équilibre.
De changer le narratif. Et aussi, quand nous transformons le coton, fait mais à partir de teintures végétales, de produits naturels. Pour nous, porter le vêtement, il ne s'agit pas seulement que de se vêtir. Le vêtement devient pour nous comme une seconde peau parce qu'elle porte notre culture, elle porte notre héritage et notre patrimoine culturel. Donc, c'est pour ça que la collection intitulée « Se vêtir, être », donc, non seulement on porte un vêtement, mais il exprime le « nous ». Il exprime la personne que nous sommes et paraître parce que nous assumons tout notre être avec ce vêtement qui est une seconde peau, qui transcrit notre culture, qui transcrit notre être et dont nous sommes fiers.
Bon, ici, on a un peu triché. Ça nous arrive souvent d'ailleurs. On ne vous a présenté que 6 des 17 précieuses minutes de cet entretien entre Marine Otogali et l'ambassadrice de la République du Mali au Canada, Fatima Braoulé-Méité. Le reste donc sur canada-info.ca. Et c'est sur cette dernière collaboration que prend fin cette édition de Point de vue. Nos journalistes Daniel Aucoin, Maxime Gauthier et Raphaël Hamel, bienvenue à Marine Otogali qui était aussi avec nous avec son premier reportage, et aux autres journalistes qui se joindront aussi à nous sous peu, dont Hubert Desberge et Mathieu Janvier. L'équipe de l'initiative de journalisme local s'agrandit, ceci tant en français qu'en anglais. Voyez ce qu'ils couvrent au quotidien sur canada-info.ca. Des douzaines de reportages y prennent l'affiche chaque semaine. L'émission Point de vue y tire ses sources. Elle est produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa avec la précieuse et indispensable collaboration de votre radio, oui, celle que vous écoutez. On lui dit merci et à vous aussi de nous tenir compagnie. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao!
Plamondon en Alberta. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.